Bien sûr. Joyeux anniversaire Fabrice, joyeux anniversaire Fabrice, joyeux anniversaire. Bien. Alors c'est toujours rigolo, il y a des fois où on se prépare plus que d'autres. C'est net ou pas? Vous voyez?
Je vais enlever la croix.
Ah, à cause de la croix. Cette croix dans le monde, c'est terrible. Ça va mieux? Super. Bon, j'ai juste amené mon ordinateur parce que j'ai préparé plusieurs trucs sur vidéo et que je ne savais pas s'ils avaient des logiciels pour les lire. Alors, du coup, j'ai fait ce petit montage en vitesse tout à l'heure. Hein. Simplement, comme d'habitude, plus je me prépare, moins je suis prêt. Hier soir, j'ai même travaillé relativement tard et j'avais plein de choses à dire. Et puis en même temps, je n'étais pas relativement pas satisfait. Et tout ce que j'avais déjà dans ma tête il y a quelques semaines, quelques mois pour aujourd'hui est revenu ce matin. Je me suis dit, il ne sera pas pu venir hier soir, ça aurait été beaucoup plus cool. Donc de toute façon, ce que je vais utiliser, voilà. Ce sera quand même pas ce que j'avais prévu. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce qui s'est passé ce matin parce que Dieu nous parle d'une certaine sanctification qui doit venir sur notre peuple. Et parce que la sanctification va venir sur nous... Elle va venir aussi sur les nations. Mais il y a sanctification et sanctification. Il y en a une qui se fait... Vous savez, hein, on marche à genoux, on fait plein de trucs. Honnêtement, je crois aussi à plein d'actions où on a fait des marches. Ce n'était pas juste, parfois toujours facile. Hein, on a marché sous la chaleur, sous la pluie, on a transpiré, on a eu froid, il a fallu se transpirer, mais... Je crois que Dieu est en train de restaurer quelque chose en nous qui va bien au-delà. Quelque chose qui va permettre qu'on puisse passer à une étape différente. Et je vois ce processus être en route depuis des semaines, des mois, et je me réjouis de ça. Voilà. Alors qu'est-ce que je vois ce matin devant moi? C'est une grande question. En tout cas, je vois plein de têtes bien pleines, bien faites, avec des gens qui ont entendu plein de grands messages. Alors, parmi les orateurs, il y a eu Franck, n'est-ce pas, avec ses messages sur la justice. Vraiment, gardez-le, ce message sur la justice et sur l'arbre de vie. C'est vraiment je l'ai encore resurvolé l'autre jour, c'est vraiment un fondement pour nos vies. Bien sûr, Luc Bussière, je ne parle pas des séminaires qu'il y a ici, je ne parle pas de Nadine, Huguette ou Anne qui passe par ici, plus ses orateurs, Saint-Mathieu, les Amish, le couple d'Allemands qu'on a eu au mois de mai. Donc, quand on est ici, on se dit, oula! Même pas qu'on dise n'importe quoi. Ceux qui m'ont précédé, ils sont forts. Vous trouvez qu'il y a de quoi être impressionné? Non, effectivement, d'accord, dit non. Je crois qu'effectivement, on ne devrait pas être impressionné par les hommes, même si accorder de la valeur à la personne avec qui on travaille est important. Je veux dire, si je vous méprisais, je vous dis, ouf, de toute façon, je fais ce que je veux, ça ne m'intéresse pas. Votre avis, ce ne serait pas juste. En même temps, la personne devant qui je vois le plus impressionné de vous aujourd'hui, c'est Dieu. Et moi devant vous. Et du coup, ça libère. Ah, c'est pas parce qu'il y a Luc, ou parce qu'il n'y a pas Luc, ou parce qu'il y a Père Cranca qui est passé ici, que je dois trembler. Mais est-ce que je dis devant Dieu, c'est juste ou pas? Et du coup, ça nous libère de cette fameuse petite crainte des hommes. Voilà. Alors, je vais commencer ce matin par différentes petites choses. Et on va passer par ça, et puis après, différentes images, et puis après, je poserai des questions, et puis j'irai dans mon petit message. Ça
fait penser à quoi?
Ça vous fait penser à quoi? Cuirasse. Cuirasse. Iron Man, oui. Et puis, c'est tout. Super-héros. Okay. Est-ce que n'a pas envie d'être un peu comme ce gars-là, avec cette super cuirasse et waouh, partout où on va, presque on claque des doigts. Bon, parfois il y a des conflits, mais on s'en sort toujours bien. Et puis il y a ce truc-là qui est sur nous, qui nous protège, cette magnifique cuirasse. Et, quelque part, vous verrez que c'est pas si mal que ça. On n'est pas si loin, l'Iron Man. Il y a une cuirasse qui nous protège. On en a une, en tout cas, c'est la cuirasse de justice, qui est largement plus puissante que celle-là. Blonde. En tout cas, tout à l'heure, quand on parle d'une personne qui est... Quelles sont nos références? En général, on se réfère toujours à des super-héros. On cherche nos modèles parmi ceux qui sont forts, ceux qui sont beaux, puissants, qui ont du prestige. Alors les blondes... Alors deux blagues sur les blondes. Honnêtement, il y en a une que j'ai beaucoup aimée. Alors c'est une vieille pub qui passe à la télévision pour une Opel Meriba, Sintra, je sais plus ce que c'était. On l'a regardée en boucle. Je l'avais enregistrée, on l'a regardée pied. Parce qu'on lui expliquait à cette blonde comment les sièges passaient de 4 à 5. Et puis à chaque fois, elle disait, mais ils ont acheté une nouvelle voiture. Ben non, t'as compris? Oui. Et puis on lui montrait, on voulait lui montrer le voisin. Ah, ils ont acheté une nouvelle voiture. Ça nous a fait rire. Je sais pas si les blondes ont rigolé. Nous, oui. Mais en tout cas, je trouve assez souvent ce passage en classe. Vous savez, quand vous expliquez des choses à des gamins, vous avez compris? Oui. Bon, ok. Dis-moi ce que tu as compris. Voilà. Mais c'est exactement pareil. Parfois, tu passes des heures à expliquer et ton résultat, tu dis, oula. Elles sont pourtant pas blondes. Allez. Ah, c'est bien ce matin. Une autre sur les blondes qu'on m'a raconté tout récemment. Il y en a qui vont se dire je suis venu au culte pour écouter des blagues. C'est l'histoire de cette blonde dont pas de Michel, on va l'appeler Michel, hein. Pas de Michel dans la deux. Bon, pas de Michel. Il y a un Michel, un garçon, mais c'est pas une blonde. Alors ça va, il est blond, blanc. Vous savez, on l'a raconté il n'y a pas si longtemps que ça, et donc c'est une jeune fille qui est dans une voiture, et puis elle suit cette voiture. Enfin, elle suit un camion, et puis au premier feu rouge qui arrive, elle va à côté du camion. Écoutez, monsieur, faut que je vous dise, monsieur le chauffeur, vous êtes en train de perdre votre chargement. Bon, donc elle dit merci mademoiselle, c'est gentil, et puis continue. Prochain feu rouge, la fille qui remonte au niveau du camion, écoutez, je suis en train de perdre votre chargement. Bon, ça repart, troisième feu rouge, la fille revient, écoutez, monsieur, c'est sérieux, vous perdez votre chargement. Et le monsieur, écoutez, mademoiselle, c'est très gentil, mais vous savez, je suis un camion de déneigement, c'est le sel que je mets sur la route. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a parfois une image des personnes assez intéressante. Si toutes les blondes qui ont fait des blagues auraient ce QI là, on n'aurait pas beaucoup de blondes qui auraient des postes, mais c'est absolument une parodie de vérité qui n'a aucun fondement. Bon, j'aimerais sortir de là. Merci. Allez, le petit dernier. Tu as le droit de marcher, mon grand? Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. On m'embête, ça. Oh non. Ok. Alors, dans cette histoire-là, il y a trois énormes malentendus. Le premier, c'est qu'on voudrait toujours être quelqu'un de plus fort et de plus beau que l'on est. Le deuxième, c'est que parfois, on a une image tellement pauvre des autres et tellement triste qu'on peut faire toutes les blagues que l'on veut. Et on connaît les blagues sur les Belges, sur les Suisses. Puis quand on entend les blagues sur les Français, ça, ça fait mal dans le dos. Et puis parfois, dans cette dernière parodie, c'était un slow des années 80 où il y avait une belle fille blonde, un peu évaporée, évanescente. Et puis il y avait à côté, il y avait un jeune homme. Et puis cette jeune fille qui disait, mais je suis là. Et parfois, j'ai l'impression que Dieu est comme ça à côté de nous. On dit, mais je voudrais tellement te trouver, tellement te chercher. Et Dieu dit quoi? Mais je suis là. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ce qu'il a dit ce matin. Je suis là. Tu fais ma joie. Je suis là. Alors c'est vrai qu'on en rigole. C'est vrai que c'est intéressant de le voir comme ça. Mais est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression que Dieu est tellement, tellement, tellement lointain? Et puis il y a toutes ces choses qu'on voudrait réussir, faire de bonnes choses. Et ces bonnes choses, on les réussit plus ou moins. Puis quand ça réussit bien, ben, je suis content de moi. Ça y est, je suis accepté. Je peux venir à l'église, tout va bien. Alléluia. Et puis quand ça va pas, voilà quoi. Qu'est-ce que je pense de moi à ce moment-là? Ben, j'aurais fait de rester à la maison. De toute façon, personne ne m'aime. De toute façon, je suis nul. Qu'est-ce que je fais sur Terre? J'ai qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu regarde sur nos vies. Et ce matin, quand on parle de sanctification, il y a des choses qui doivent être enlevées dans nos vies. Ce sont les mensonges que l'ennemi pose et repose sur nos vies en permanence. J'ai amené ici un petit bout de papier pour expliquer certaines choses. On va dire que quand notre vie a commencé, ben, sans Christ, on a fait pas mal de péchés. Et puis... merveille des merveilles, on a rencontré Jésus, il a touché notre vie, et puis ça y est, la page est blanche. Alors pas entièrement blanche, parce qu'il traîne plein de trucs qui traînent quand même au fond de nos cœurs parfois. Hein. Et puis alors, ça y est, la page est blanche. Et puis on recommence. Et puis on pêche. Et puis, qu'est-ce qui se passe là? Ça nous colle à la peau. Ah! Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, on recommence. On essaie de faire le bien, qu'on n'y arrive pas. Puis, on fait du mal. Est-ce que ça se sent vraiment très sanctifié dans ces cas-là? Y compris avec tout notre bon vouloir, tout ce qu'on en est, tout ce que nous sommes. Pas vraiment. Pas vraiment. Simplement, dans cette idée-là, il y a quelque chose qui est complètement de travers. Vous savez, ça, c'est la fameuse œuvre de la loi qui dit que finalement, ta vie reste toujours la même. Tu fais du bien, tu fais du mal, tu sais pas trop où tu vas, mais voilà. Et je crois qu'une des choses qui fait que nous percevons notre vie de cette manière-là, et puis on passe au prochain culte, ou au prochain temps de séminaire, et on passe par une autre étape, c'est parce qu'on n'a pas compris que en fait, notre vie a complètement changé de nature. Si je voudrais prendre quelque chose pour effacer ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux effacer ce papier? Ah non, impossible. J'ai pris exprès du marqueur indélébile, c'est pas possible. Ce principe-là et cette idée de la page blanche, elle est pas mal pour commencer à comprendre ce que Jésus fait dans nos vies, mais elle a quelque chose de faux en elle. Notre nature a changé. Notre nature a changé. quand on arrive à Christ, ce n'est pas simplement qu'on reçoit une nouvelle plage blanche. C'est que le fondement même de notre vie, quelque chose a changé. Si je prends le sable qui est au bord de la mer et je vais le chauffer, il va passer par la fournaise, il va devenir du verre. De la même manière, dans notre vie, ce n'est plus du papier qui est bon acheté, qui va brûler. Ça devient quelque chose sur lequel le péché ne va pas rester. Alors bien sûr, quand je vais écrire, ça va se voir. Simplement, si je commence à frotter un petit peu, qu'est-ce qui va se passer là? Je vais pouvoir effacer. Je vais pouvoir effacer. Et si je travaille avec un peu d'eau de vie, Jésus avec moi, eh ben. Pourtant, c'est un feutre indélébile. Est-ce que vous percevez la différence? Notre vie n'est pas marquée d'une manière indélébile. Elle va être tachée. Mais notre nature ayant changé, le péché n'a pas le même pouvoir sur nos vies. Il n'a plus aucun droit. Donc, je ne retourne pas en arrière. Je ne suis pas comme il y a 10 ans quand je suis arrivé au salut. Quelque chose de fondamental a changé. Vous savez, j'avais toujours un peu du souci avec ce verset qui disait à un moment donné, vous savez que toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand tu vois des gens, tu dis, mais attends, tout n'est pas nouveau. Tu sais que certains vont faire des cures d'âme parce qu'ils ont plein de trucs. Il faut que ça dégage. Mais qu'est-ce qui a changé? La nature même de leur vie a changé. La nature même de leur vie a changé. Quand Dieu dit qu'il va faire avec nous une nouvelle création, c'est qu'il le fait. Et si on n'arrive pas à se saisir de ça, alors on va penser qu'on va tomber et retomber et retomber et retomber dans les mêmes erreurs. Romains 7:8 nous parle complètement de cette histoire-là. Vous savez, il dit à un moment donné, mais qui va me sortir de ce corps? Qui va me faire le bien que je veux faire? J'y arrive pas. Je ne peux pas. Fini. Je suis coincé. J'ai cette loi qui agit en moi, l'arbre de la connaissance du bien. Elle agit. Elle est en œuvre. Et à la fin de ce chapitre 7, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Remarquez bien ici qu'il y a 2 esclavages, pas un seul. Le premier, c'est la chair. Et celui-là, on en parle beaucoup. Vous savez, je vais mettre à mort ma chair, faisons pas les œuvres de la chair. Mais il y a un 2e esclavage. Il y a un esclavage d'entendement. Ma connaissance que j'ai dans ma tête fait que je suis esclave. Et parfois, on réussit à faire du nettoyage au niveau de notre chair, mais on reste esclave au niveau de notre entendement. Tout à l'heure, il y a un verset qui a été lu avec notamment, je ne sais plus comment est-ce qu'il l'a lu, c'est dans 1 Pierre 4, me semble-t-il, il dit « Saignez les reins de votre entendement ». Il faut mettre quelque chose sur la manière de comprendre. Et ça explique que parfois, on a tellement de mal dans l'Église, quelque chose est bloqué là-dedans, et on a besoin de sortir de là. On a besoin de comprendre que Dieu veut nous libérer de ce double esclavage. La loi du péché, mais aussi qui je suis. Qui je suis. Et verset juste après, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Point terminé, point à la ligne, zéro pointé. C'est-à-dire que on peut écrire ce qu'on veut sur votre vie, Dieu dit, paperboard, j'efface tout. C'est plus du papier, j'efface. J'efface, il n'y a plus rien à faire. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, et ça on en revenait, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La justice de la loi a été accomplie en Jésus, mais d'une manière incroyable, il dit qu'elle est aussi accomplie en nous. Nous sommes porteurs de cette justice. Porteurs de cette justice. Et parce que nous sommes porteurs de cette justice, alors notre vie peut changer complètement. Vous savez qu'on parle souvent du levain du péché. Et on comprend parfaitement que quand le péché va quelque part, qu'est-ce qui se passe? Ben, il produit son effet. Et on rame après ce péché depuis Adam et Ève. Même avant. Mais là, il est dit une chose assez incroyable. Il dit, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? De la manière, il est comme du levain qu'on met dans la pâte. Alors, normalement, nous, on aime bien les pains sans levain. Mais là, il dit, on est comme du levain qu'on met dans la pâte. Il est comme dans du levain qu'on met dans la pâte. Et qu'est-ce qui se passe? Ce levain, qu'est-ce qu'il fait obligatoirement? Il produit, il avance, il produit son fruit. Mais pour vraiment mesurer ce qui se passe, il faut vraiment qu'on comprenne qui nous sommes, qui je suis. Et c'est vrai que souvent, et dans l'Église, j'entends parler de notre pauvre condition d'êtres humains. Misérables, pécheurs, comme disait tout à l'heure Franck, on regarde en bas. Je suis poussière et je retourne à la poussière, et patati et patata. J'apporte rien de bon, Seigneur, même parfois dans nos champs. Seigneur, j'apporte rien de bon, mais tout ce qui est bon, ça vient de toi. À force, on a un regard sur l'être humain qui est très dévalorisant. Et parce qu'il dévalorise les autres, il me dévalorise aussi. Est-ce que je suis encore capable de faire quelque chose? Est-ce que... Mais vivement que Dieu soit là, parce que sinon on ne peut plus rien faire. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu compte sur nous pour faire les choses. Hé, Seigneur, au secours! Ben, mets-toi au travail. Ah. J'ai bien aimé... Vous savez, il y a 15 jours, à peu près c'est 15 jours, il y avait ce couple d'Allemands qui était là. Ils ont relevé un truc que je n'avais jamais vu. Que j'ai... C'est l'histoire de Moïse, quand il est face à la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il faisait Moïse? Il a fait quoi comme tous les autres? Il a râlé, il a crié à Dieu. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu cries? Prends ton bâton, vas-y, mets-toi au boulot. Hein? Mon bâton. D'accord. Mais il a crié comme les autres. Quelle était sa conception qu'il avait de lui? C'est quelque chose qui lui était venu de l'Égypte, qu'il a vécu aussi dans ses temps de rejet, quand il est parti. Il s'est dit, mais je ne vaux rien. Et il a dû apprendre à avoir un autre regard sur lui. Un autre regard sur lui. Tout à l'heure, on a parlé d'Iron Man. C'est un héros, un super-héros, il y en a plein. Et j'aimerais savoir à l'image de qui vous avez été fait. Dites-moi. J'irai à Iron Man, il peut se cacher à côté. Est-ce que vous êtes conscient que là, vous êtes à l'image de Dieu? Ça veut dire quoi? Que vous êtes fait à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Que vous êtes de la même nature, qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en vous. Est-ce qu'on dirait à Dieu, écoute, toi, tu vois, tu es petit, moyen, tu ne vaux rien du tout. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Même si vous n'en rendez pas compte, même si pendant toute notre vie on a pris le contraire, même si pendant notre vie, à cause des échecs et ce qu'on a vécu, on se dit, ma vie elle vaut rien. Même ce qu'on a entendu, et entendu, et entendu. Que vaut votre vie? Elle est énorme, la valeur de votre vie. Jésus est mort pour elle. Mais pas parce que vous valez rien, parce que vous avez un prix incroyable à ses yeux. Et vous avez été fait à son image. Quelle est l'image de Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Créateur? Vous êtes fait à son image, créateur. Qu'est-ce que Dieu encore peut faire? Il peut sauver. Vous êtes appelé à servir comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Faire des miracles? On devrait tous en faire. Je parlais à quelqu'un l'autre jour qui me parlait qu'il n'a pas voulu aller, une personne qui n'est pas d'ici, dans cette assemblée, qui n'est pas voulu chez une autre personne parce que cette personne avait fait plein de choses occultes dans le passé, etc. Donc, je dis, mais comment est-ce que des chrétiens engagés ou des chrétiens depuis des dizaines d'années ont peur d'aller chez quelqu'un parce que cette personne a fait des choses mauvaises et traficoté avec les démons? Alors, c'est clair qu'il faut être prudent. Mais qu'est-ce qu'il a dit Jésus? on doit avoir la puissance de marcher sur les scorpions, les maladies, guérir les morts. Il a même dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Honnêtement, quand on voit ce que Dieu a fait, rebrayez tous les miracles. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a encore fait des plus grands miracles que ça? Il ne semble pas. Mais ressusciter des morts, il y en a déjà eu. Il y a des choses encore, il y a des choses encore plus grandes qui ont été accomplies. Il y a des gens qui ont voyagé par l'esprit, pouf! C'est vrai dans la Bible, mais je connais plusieurs témoignages de gens qui se sont promenés. Jésus l'a fait, sûrement. On peut le faire aussi. Il y a tellement d'autres choses. Moi, je suis sûr qu'il y a des chemins qu'on n'a jamais ouverts. Et Dieu, on ne va pas pouvoir le faire si on pense simplement que nous sommes petits, minuscules comme des vers de terre. Il faut vraiment que notre capacité à comprendre que nous sommes autre chose. Vous savez ce que dit le psaume 8? C'est un psaume 8 qu'on aime bien parce qu'il dit que par la force, par la bouche des enfants, tu as fondé ta gloire et tu as fait taire l'ennemi. Mais il dit quoi aussi? Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et nous, on met toujours l'homme tellement bas. Vous savez qu'il y a un des mensonges que l'ennemi met dans nos vies, c'est un de celui-là. Tu ne vaux rien. Bon, Dieu, tu as vraiment fait grâce parce que vraiment, tu es une unité de chez une unité, mais tu n'as aucune valeur. Ah, merci, sympa. Et le pire, c'est qu'on le croit, y compris dans l'Église. Moi, je ne crois pas que l'homme n'a aucune valeur. Au contraire. Simplement, il y a un problème. Vous savez, je dirais à côté des humanismes, quelle est l'idée des humanismes? C'est après des années où on a enfermé l'homme sous la royauté, sous la féodalité, en disant, mais voilà, il y a les super-hommes et les sous-hommes. Ben non, ils sont tous égaux, il faut mettre l'homme au centre de la terre. Il a la valeur, il est doué de tellement de choses. C'est une idée qui est juste jusqu'à sa limite, c'est-à-dire quand on dit, écoute, on n'a pas besoin de Dieu. Là, on commence à partir dans n'importe quoi. Mais qu'on redécouvre la valeur de l'être humain, mais ce serait fantastique. Pourquoi tellement de gens meurent de faim à travers le monde? Parce qu'on n'a pas idée de la valeur d'un être humain. Alors, je pense que beaucoup ont vu le Home vendredi soir. Et quand un des chiffres qui était donné, c'est que 20% des gens ont la richesse du monde, utilisent la richesse du monde, 80%, ben voilà. Aujourd'hui, on fait partie de ces fameux 20%. Aujourd'hui, même nous, même ceux qui ont des SMIC, on fait partie de ces 20%. Même ceux qui sont presque à la rue, on fait partie de ces 20%. Quand on voit certaines personnes vivre, on dit, mais comment est-ce qu'elles arrivent à supporter ça? Alors bien sûr, il est décrit que Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces. Honnêtement. Allons vivre en Corée du Nord, 2 jours. Une journée peut-être, 2 jours. Je ne sais pas si on vivrait longtemps là-bas. Mais en même temps, on a perdu cette capacité à amener les autres à cette vie abondante. Pourquoi? Parce qu'en même temps, écoute, tu ne vaux rien, tu es nul, merci, je le savais déjà avant. Tu ne vaux rien, tu es nul, mais il faut que tu rentres à Christ pour que tu puisses tout recevoir. Oui. Le péché est là, c'est une vérité. Ça nous couvre de honte, c'est une vérité. Ça n'enlève rien à notre valeur réelle. Ça n'enlève rien à notre valeur réelle. Si, au lieu de parler de ça, on dirait, hé, les gars, vous êtes fantastiques. Dieu a mis un potentiel en vous. Vous êtes beaux. Dieu a mis cette capacité de créer. Vous avez tellement de talents. Venez, on va les exploiter ensemble. Peut-être que les gens nous écouteraient davantage. Peut-être. En parlant toujours de l'homme, dans Habacuc, il est dit à un moment donné que la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre. Et que la terre, c'est un des versets qui dit que la terre est remplie de sa gloire. Je crois que c'est dans Isaïe, me semble-t-il. Mais malheureusement, on ne le voit pas. Et Habacuc nous apporte une clé en disant, mais écoutez, un jour, la connaissance de la gloire va remplir la terre.
Youpi. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? On parle toujours de la gloire, de la gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? Alors, il y a un verset qui est, je l'ai sorti peut-être d'un contexte, peu importe, parce qu'il est parlé dans un endroit dans en Corinthiens 11. Alors, parce que c'est un sujet où il est parlé, vous savez, des femmes qui doivent porter un truc sur la tête de temps en temps. Elles devraient, à cause des anges, et patati et patata. Mais en ce passage-là, dans Corinthiens 7, il dit un truc bizarre. L'homme est l'image de la gloire de Dieu. L'homme est l'image de la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez qu'on met en l'image de la gloire de Dieu ce matin? Ce serait bien. Ce serait bien. Et quand ici je parle de l'homme, je ne parle pas de l'homme avec masculin, je parle de l'homme avec l'être humain. L'image de la gloire de Dieu. Waouh. Est-ce qu'on se voit toujours aussi petit, misérable? Alors, la condamnation ne peut pas s'incruster d'elle-même. Dans le papier, elle s'incruste. Elle va rester. Ici, elle va rester si on reste passif. Et je crois que même si notre nature a changé, même si on nous ferme à l'image de Dieu, on a besoin de venir faire les processus de sanctification. Je redis par rapport à ce que j'ai fait prêcher il y a 2-3 ans sur la confession, qui moi me reste une chose qu'on devrait pratiquer dans l'Église beaucoup plus souvent. Mais si on marche dans la vérité, on ne va pas permettre au péché de nous s'incruster, de nous rabaisser, car nous sommes participants de sa nature divine. Ça, c'est dans 1 Pierre, 2 Pierre, je ne sais plus. Alors, c'est Pierre qui parle, serviteur et apôtre, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alors, il parle bien sûr des chrétiens. Et Pierre dit à ceux qui ont reçu en partage une foi d'un même prix que la nôtre. Quel est le prix de votre foi? Quelle est votre foi? La même. On a reçu ça à travers de quoi? Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et le but de ces promesses, c'est quoi? Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alors c'est clair qu'il y a des choses qui sont encore en espoir. Paul dira à un moment donné, mais je veux sortir de ce corps, j'aimerais retrouver mon corps de gloire, j'aimerais aller ailleurs, c'est une tente ici. Il y a des choses qu'on ne voit qu'en espérance. Mais vous avez une nature divine. Excite la nature charnelle, humaine. Vous avez une nature divine. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on reste dans l'histoire, je paie, je te casse la figure, je recommence, je ne vois rien. Et Dieu dit, mais écoute, c'est bon, on passe à autre chose. J'aimerais t'emmener dans une autre étape. Et la suite du verset, ces versets nous parlent de tas de choses. De fuir la convoitise, ça c'est un travail à faire, et puis d'ajouter la vertu, la science, etc., etc., etc. Et puis, dans ce même chapitre, il dit, verset 9, mais celui qui en oublie ces choses ne sont point est aveugle. S'il y a ces choses-là qui ne sont pas là, ces promesses, cette vertu, ces choses-là, tout ce qui est là, il ne voit pas ces choses-là, alors il est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Il a oublié que ça s'est enlevé et que sa nature a été changée. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il y a un travail à faire pour affirmer qui nous sommes. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Alors, il ne s'agit pas ici du salut, hein. On est bien d'accord. Il parle à des chrétiens. Il parle du royaume. C'est-à-dire qu'on peut être sauvé et jouer l'accordéon, jouer le yo-yo. Je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, je perds mes péchés, je recommence. Et Dieu dit, ok, tu es sauvé quand même. Pas de souci. Mais si on veut cette capacité à rentrer dans ce royaume de Dieu et amener ce royaume sur la terre, alors il faut qu'on se saisisse de qui nous sommes. Et Paul continuera, je vais prendre soin, je vous rappelle ces choses-là, pour que vous soyez affermis par la vérité présente. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu acceptes le mensonge du diable qui dit toujours que tu ne vaux rien, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cet temps, de vous tenir en éveil par les avertissements. L'avertissement, ce n'est pas le but de dire « Eh, vous faites mal les choses !» Hé, hey, tu es saint, tu es pur. Hé, hey, réveille-toi, tu es un être divin. Ta nature a changé. Tu as une nouvelle création. Si seulement, au lieu de se flageller en permanence, on goûterait plus souvent l'arbre de vie, comme disait Émilie ce matin. Si on goûtait plus souvent l'arbre de vie. L'arbre de vie nous dit autre chose. On est participants à cette nature divine. Éphésiens 5 dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. » Il ne dit pas « Tu es peut-être de la lumière, t'en entends, tu es de la lumière. » Vous êtes lumière. Votre nature a changé. Marchez comme un enfant de lumière. Mais si l'enfant de lumière, il marche, « Oh, je suis nul. Oh, je peux rien faire. Oh, je suis encore tombé. » Que vont voir les autres ? Ils vont dire « Mais attendez, c'est ça les enfants de lumière ? Mais j'ai pas envie de cette lumière-là. » Ah, celui-là aussi. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne plût point, il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et souvent on dit, hop, mais tu vois, Élie était comme nous, pauvre, faible, pêcheur et tout petit coin. Pourtant, il a réussi un truc un jour. Il a plu, il a prié et puis il n'a pas plu. Et puis après, il va pleuvoir et puis hop, c'est bon, 3 ans et 6 mois. Il a fait d'autres trucs. Mais quelle est la nature d'Élie ? La véritable nature d'Élie. Moi, je crois qu'il y a des hommes dans l'Ancien Testament qui avaient touché à cette nature divine. Complètement. Remarquez que Élie a fait partie de ces gens-là qui ne sont pas morts. Hein. Il y en a 2 à ma connaissance. Il y en a peut-être d'autres que Dieu garde secret. C'est son droit le plus complet. Mais je ne verrai pas pourquoi il n'y en a que 2. 2 sont nommés. C'est tout. Pour moi, il y en a d'autres qui sont montés. Et Enoch, au début, il marcha, puis un jour, pouf, et puis là. Et puis Élie. Normalement, on passe par la mort pour rentrer dans cette nature divine. Quelle était la nature ? Moi, je crois qu'il y a des gens qui avaient découvert des choses incroyables. Ils l'avaient vu, ils l'avaient compris, alors que même le Christ n'était pas encore complètement révélé sur la terre. Comment David a pu écrire tous ces psaumes ? Comment ? Comment Abraham a pu reconnaître ce roi de Melchisédek, lui apporter sa dîme ? Par cette sainte scène avec lui, comment ? Il dit que ça lui fut compté comme justice. Comment ? Je parlerai aussi de David, je parlais des psaumes, mais vous savez que David, il y avait ce fameux tabernacle de Moïse, le tabernacle de la loi. Est-ce qu'il l'a fait monter à Jérusalem, ce tabernacle de la loi ? Il l'a laissé où ? Loin, sur une montagne. Il a laissé une famille qui en avait la charge. C'est très bien. Il ne l'a pas détruit. Mais, qu'est-ce qui était plus important pour lui ? La vie. L'arbre de la vie. Que la justice le couvre. Et cela a été à tel point, même s'il a fait des erreurs, hein, c'est pour ça qu'on voit aussi que David était un homme sur le cœur de Dieu, parce qu'il avait commencé à comprendre de qui il dépendait, quelle était sa véritable nature. Il a ramené l'arche, il s'est planté, il a dû la ramener une deuxième fois. Mais dans le tabernacle de David, est-ce qu'il y avait une première étape, la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape ? Nada. Il y avait l'arche de l'alliance et la louange. Point. Fini. Pourtant, c'est dans l'Ancien Testament. Quand on a reconstruit le temple, on a remis toutes les choses en place. Mais dans le tabernacle de David, la présence de Dieu. Il avait compris qu'il était recouvert par une justice incroyable. Accepter d'être dans la présence de Dieu en permanence. Vous savez, cet arche de l'Alliance, ils l'ont mis un jour devant une grosse entité. Elle est tombée. Ce gars qui l'a touché parce qu'il avait péché, il en est mort. Et devant cette herche-là, tellement puissante, il dansait, il louait jour et nuit. Je crois que David avait compris de qui il était. La lumière du monde, j'ai déjà dit, ah, vous êtes le sel de la terre. Youpi. Dites-moi, c'est quoi le sel? Quelque chose qui donne du goût, hein, vous savez, c'est ce petit verset dans Matthieu où il dit, mais vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, vous êtes le sel de la terre. Aujourd'hui, le sel a perdu sa signification. Il y a 2000 ans, le sel était une chose qui était incroyablement... un potentiel de richesse incroyable dedans. Vous savez d'où vient le mot salaire? Ça vient du sel. Il sale, c'est l'italien, c'est du latin, ça veut dire le sel. Et les gens trouvent, les Romains payaient leur salaire en sel. La monnaie d'échange, le sel. Ah, vous êtes comme une monnaie d'échange. Vous êtes tellement de valeur, payez les autres. Le sel était symbole de l'alliance, de purification. Aujourd'hui, le sel, quand on lit ça, pff, mais Dieu ne comparait pas un truc juste parce qu'il a envie de le comparer à un machin, parce qu'il est blanc et parce que c'est un peu de saveur. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes ce qui a de la valeur sur la terre. Vous êtes le sel de la terre. Qui êtes-vous? Ouais, c'est comme si parfois on courait toujours dans les mauvaises directions. Il parle, mais on ne l'entend pas. Un autre verset qui dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Dieu est à ta l'œuvre en nous, nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Alors, j'ai encore combien de jours? Non, et midi et quart. Enfin, quand même que je limite dans mon temps. Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Vous savez, ce qui est né de la chair est né de la chair. Et ce qui est né de l'esprit est né de l'esprit. Mais nous avons été créés en Jésus. Nous avons été créés en Jésus. Il y a quelque chose qu'il a mis en œuvre pour qu'on puisse faire des œuvres bonnes. Préparées d'avance. Et pour cela, Dieu nous a recréés en Jésus. Un autre passage qui dit, c'est toujours dans Éphésiens, me semble-t-il, je n'ai pas remarqué toutes les références. On va prendre à partir du verset 22. Il dit, on vous apprend à vous dépouiller de cette vie de passe et du vieil homme. Bien sûr que dans le vieil homme, il y a toutes les convoitises, mais aussi tous les mensonges qui nous disent qu'on ne vaut rien. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Vous avez été créé, vous êtes appelé à revêtir cet homme nouveau. Créé selon Dieu, donc ce n'est pas de votre fait. Et dites-moi que Dieu a créé des choses mauvaises. Dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Vous avez été créé dans la justice de Dieu. Vous avez été créé dans la justice. Et ce qui est créé dans la justice émane de la justice. Les fleuves de justice coulent de vous. Vous savez, l'autre jour on priait, il disait, mais Seigneur, que les fleuves d'eau vide coulent de nous. À un moment donné, on prie toujours, Seigneur, fais descendre la pluie du haut. Et le Seigneur te dit, mais écoute, et que toi qui croiras en moi, des fleuves d'eau vive couleront de l'intérieur de lui. Moi, j'ai envie de voir ça. Et je crois que je participe à cette nature complètement nouvelle. Je veux restituer cet homme nouveau encore et encore, créé dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ton berceau, c'est la sainteté et la justice. Et il y en a qui va te dire, mais écoute, ton berceau, c'est la poussière. Renoncez au mensonge. Alors ici, renoncer au mensonge, c'est pas simplement, quelqu'un te demande si t'as arrêté ta voiture. Maintenant, c'est pas moi, mais c'est toi qui l'as fait. Renoncer au mensonge, c'est renoncer à croire aussi que vous êtes sans valeur. Renoncer à ces mensonges qui vous... Voilà, votre vie après, elle est... Je veux dire qui vous pourrit la vie, je vais quand même le dire, jour après jour. Et stop! Le message de ces Allemands disait, jusqu'à quand, jusqu'à quel point l'ennemi va venir près de vous pour que vous puissiez réagir? Jusqu'à où il va faire? Stop! et que chacun parle selon la vérité à son prochain. La vérité, c'est dire, hey, tu as de la valeur, tu es important, tu es d'une nature divine, incorruptible. Dieu nous voit comme une nouvelle création, avec une nouvelle nature. Quels sont certains avantages? Alors, on ne peut pas tous les voir ce matin. Il nous voit purs. Oups. Ça, c'est un truc bizarre, hein. Que Dieu puisse nous voir purs. Qui se voit pur ce matin? Qui sait qu'il a fait des péchés? Qui sait qu'il se voit pur? Il y a parfois, je me dis, mais Seigneur, je ne sais pas comment toi tu fais. Je ne sais pas. C'est absolument impossible. Un des versets a déjà été nommé par notre cher ami Francky il y a quelques fin avril, début mai. Je vais en lire plusieurs. Le premier, Nombre 23. Vous savez, c'est cette histoire où on appelle un prophète pour maudire le peuple. Il dit, viens maudire le peuple, viens, prophète de Dieu, ça va être génial, tu vas le faire, ouais, super. Puis ils vont une fois, deux fois, ça marche jamais. Puis à la fin, il dit, prête-moi l'oreille, fils de Tsipor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alors, ça c'est un truc bizarre. Il commence par dire, je suis pas en train de mentir. D'accord? Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Il me semble que cette histoire-là, c'est avant toute la conquête du pays promis et tout ce qui va se passer derrière. Vous savez, de toute manière, la deuxième ville après Jéricho, c'était Haï, vous savez ce qui s'est passé. Il y en a un qui a piqué, il a planqué, il y en a plein qui sont morts. Et Dieu dit à un moment donné, tout est bien, ils sont complètement purs. Pouf, pas de péché, iniquité, péché. Pas d'injustice. Il est aveugle. Dans 6 millions de personnes, pas de péché là-dedans. Attends Dieu, tu... Ah, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bon, je me tais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il déclare pur, qui va le déclarer impur? Ce qui Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez quand Dieu dit à face pas impureté à Pierre, vas-y mange. Ah non, c'est impur. Et moi j'ai déclaré pur les choses. De quoi, quel droit tu te permets de dire que c'est impur? Si je te déclare la chose pure, c'est pur. Jésus 13, 10. Jésus lui dit, celui qui s'est lavé n'a pas besoin de se lever les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. C'est dans la Sainte Cène, quand il a décidé de laver les pieds. Dites-moi après, les disciples, est-ce qu'ils ont une vie absolument irréprochable, pleine de grâce, plus aucun péché? Et vous êtes purs. Pas tous. Car celui qui connaissait celui qui est vrai, c'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Comme si on était un petit peu sourd, Jean 15, 3, vous êtes purs. C'est quand il parle du cep et des sarments. Moi, vous êtes purs. Est-ce que ce matin, vous avez cette capacité à sentir cette pureté vous habiter? Je veux dire que parfois, quand on a ces idées-là sur les uns et sur les autres, c'est comme les blagues des blondes, on aimerait faire autre chose. Du coup, ça va déformer notre perception des uns et des autres. Déjà, par exemple, je crois que j'ai déjà prêché ici sur Lot, et on se rappelle que dans tous les messages que j'entends sur Lot, même parfois à droite et à gauche, on montre toujours ce brave Lot comme étant charnel chez charnel. Pourtant, Dieu dit que c'est injuste. Injuste. Qui intercédait. Quand on relit véritablement l'histoire de Dieu, non pas avec ses yeux d'accusation qui dit, mais qui cherche la petite bête, on voit à quel point c'était un homme incroyable. Relisez encore une fois l'histoire de Lot. Cherchez-le, vous verrez. Il y a une onction qui est sur la vie de Lot, incroyable. Pourtant, à cause de notre nature un peu tordue, on n'accepte pas, on est tellement prompt à juger, tellement prompt à juger. Du coup, ce qu'on juge, ça nous retombe dessus. Et puis là, Pierre qui dit, mais vous savez, je veux te suivre partout, j'aurai ma vie pour toi. Tout ce qu'on a retenu dans ce passage, c'est que Pierre a été absolument incapable de faire sa promesse, de tenir cette vérité, de dire, mais moi, je te suivrai. On oublie juste une petite chose. Verset 36, Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Dans ce passage-là, ce qui est annoncé, c'est de la fidélité qui va aller jusqu'au bout de Pierre. Nous, on voit juste la suite. T'as vu, Pierre, il est comme nous. Quel triste sire. Il chute, et moi aussi. Mais en fait, Jésus est en train de lui dire, hé Pierre, ok, tu vas te planter. Mais tu vas me suivre jusqu'au bout. Tu donneras effectivement ta vie. Tu me suivras plus tard. Tu vas me suivre. Pas maintenant. Parfois, Dieu dit, écoute, pas maintenant. Mais tu vas me suivre. Et Pierre, il voulait absolument tout de suite, maintenant, tout de suite. Ça, c'est nous. Parfois, on se plante parce qu'on veut tout de suite. On attend simplement le temps de Dieu et puis les choses arrivent. Est-ce qu'il est mort sur une croix, Pierre ? Oui. Mais, on voit quoi ? Pierre que renie. Si on simplement pouvait voir un peu plus souvent ce que Dieu, ce que Pierre voit déjà, ce que Jésus voit en Pierre, cette capacité à le suivre jusqu'au bout. Quand vous regardez les uns les autres, qu'est-ce que vous voyez ? Tous les reniements ou la capacité que vous avez à suivre Jésus jusqu'au bout, parce que vous êtes participant de cette nature divine. Bon, je ne vais pas le relire. Nouvelle créature, toute chose. Verset 21 quand même. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous savez que vous êtes la justice de Dieu sur la terre. Vous êtes la justice de Dieu. La justice de Dieu. J'aimerais finir par deux, trois petites choses. Après, je m'arrêterai là. Une des choses qui devrait normalement aller aussi avec cette nature, c'est les fruits. Vous savez, Dieu dit, il serait tellement réjoui que portiez des fruits, les fruits de cette justice, de cette nouvelle nature. Et parfois, c'est ces fruits dont nous sommes privés, qui nous fait croire que nous sommes sans valeur. Il faut absolument que nous portions des fruits. Vous savez, Jésus dirait, mais je serai glorifié, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, pas peu. Mais il se passe un autre truc, quand tu portes des fruits, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous portez du fruit, qu'est-ce qui se passe ? Ok, je ne vais pas vous faire trop languir parce qu'il est 13h26. C'est que votre perception de vous-même change. Souvent, et c'est pour ça qu'il va être urgent de faire plein de choses dans l'Église, pas simplement se réunir. Alors, je crois que c'est tout ce qu'on fait là, mais je crois aussi à tout ce qui est en train de se mettre en place. Et je ne pourrais pas être partout, mais par exemple, les ventes de vêtements, je ne sais pas combien ça rapporte la dernière fois, mais peu importe, il y a quelque chose qui est en œuvre. Des fruits vont venir de là, puis il y en a qui vont aller évangéliser, et des fruits vont venir de là. Et quand les fruits arrivent, tu vois que le royaume de Dieu est en marche. Et ça change, tu dis, ah, mais Dieu est avec moi. Il y a quelque chose qui est là. Parce que c'est bien sûr, les fruits montent. Mais tu vois que les fruits sont chez toi. Et il est important que chacun rentre dans son appel, dans son ministère. Pas pour remplir un quelconque mandat. Pour enlever cette idée de stérilité, de nullité, d'incapacité. Alors bien sûr, il y a mes méditations vitaux, il y a de l'orgueil, il y a tout ça. Il y a tellement de messages qui nous rabaissent. Je ne parle pas ici, je crois qu'on est en train de relever la tête. Mais tellement de choses, on nous dit, mais tu ne vaux rien. Pour une fois, ah, relevons la tête, regardons-nous. Mettons-nous à porter ses fruits. Et dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'on portait les dîmes, les offrandes de tellement de trucs bizarres. Tous les fruits, de toutes choses. C'est vrai qu'on a réduit ça à l'argent. Mais je crois que Dieu attend des prémices dans les fruits spirituels. Ce serait comme une dîme à apporter à Dieu, vous ne pensez pas ? Et quand vous pensez à une dîme, le reste c'est pour qui ? Pour nous. Quand Dieu dit, je te donne de l'argent, ok, t'as un travail, super. Tu me donnes juste 10%, tu gardes 90% pour toi. Je t'ai donné un boulot, tu me donnes 10%, pas grand-chose. Je t'ai donné 90%. Parfois on pense que c'est nous qui donnons 10% à Dieu, rappelez-vous, non. Dieu nous a tout donné. Et tu dis, bon, maintenant, là-dessus, sur ce que je t'ai tout donné,
le contrat, c'est que tu me passes 10%. Voilà.
C'est pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enfin faire un sacrifice incroyable. Je vais donner 10% à Dieu. Puis,
Dieu attend des fruits de nos vies. Dieu attend les fruits de nos vies. Mais on a besoin de comprendre qui nous sommes. Commencer à marcher dans une nouvelle nature. Commencer à marcher dans une autre justice que la nôtre. Commencer à ouvrir nos yeux. Que les yeux de notre cœur soient illuminés. Afin qu'on comprenne quel est l'héritage qui est le nôtre. On va juste prier peut-être. Je pensais prendre les temps de prière intermédiaire et tout. Puis voilà. Mais peut-être que ceux qui ont vraiment envie que de se dépouiller un peu de cette vieille nature qui leur colle à la peau, alors peut-être que vous puissiez venir devant et que parmi les responsables, ce serait bien que vous puissiez prouver pour eux. Amen. Père, durant ce temps, on veut se dépouiller de tout ce qui est de cette vieille nature. On veut se dépouiller de l'homme ancien, de ses pensées charnelles. On veut plus être seulement prisonnier de la chair, mais on sait que cela est cloué à la croix. Mais on veut aussi être libéré de cet esclavage de l'entendement. On veut être libéré de l'entendement. On veut te comprendre. On veut t'aimer, toi. On veut comprendre qui nous sommes en toi. On veut que ta justice nous habite. Que les fleuves d'eau vive viennent couler en nous. Seigneur, viens nous révéler ta vraie nature dans nous et qui nous sommes en toi. Seigneur, on ne court pas après les héros. Mais on veut savoir qui nous sommes en toi. Que nous sommes chacun de nos vies a tellement de valeur à tes yeux. Que tu es mort pour chacune de nos vies. Que tu nous as sanctifiés, que tu nous as fait naître dans un bain de justice, que tu nous as fait naître dans un bain de vérité et de sainteté, que nous avons été bâtis dans ce creuset de l'amour. Et ce qui est bâti dans ce domaine-là, dans ce creuset de sainteté, de vérité, de justice, alors Père, on veut porter des fruits dignes de cet arbre de vie, maintenant. On accepte complètement de faire partie de cet arbre de vie. On veut rebâtir cette nouvelle nature. Et Seigneur, on te demande pardon pour toutes les fois où on a accepté les mensonges de l'ennemi. On n'a pas osé se sanctifier en disant « Mais oui, je ne vaux rien. Mais oui, je suis nul. Mais oui, je ne suis que poussière. Je veux reconnaître que ma vie a de la valeur à tes yeux et que c'est une vérité. Je veux reconnaître que la vie de ceux qui sont là ont de la valeur à tes yeux, qu'ils sont une image de ta gloire, qu'ils ont été créés selon toi. Seigneur, je veux les bénir chacun. J'ai appelle leur vie à être réveillée dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je ne sais pas, je laisse la place au...